Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il m'invoquera et je l'exaucerai, je le délivrerai et le glorifierai, je le comblerai d'une longue suite de jours. Mes très chers frères, le Saint Carême commence par l'évangile de la tentation de notre Seigneur au désert. En jeûnant 40 jours, c'est le nom même du carême, quadragésima, 40 jours. En jeûnant 40 jours, nous tâchons d'imiter un tant soit peu notre Seigneur dans la pénitence, dans sa pénitence qui a été toute divine et au-delà des capacités humaines. Il a fait pénitence pour nous et ça va être le thème de notre sermon aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Notre Seigneur est notre Rédempteur. Il a mérité pour nous ce dont nous étions incapables et même de ce dont nous étions incapables de nous procurer par nos propres forces et de regagner après la prévarication de nos premiers parents dans le paradis terrestre. Alors, en ce premier dimanche de carême, nous avons, avec l'aide du Saint-Esprit, plusieurs choses à voir. Tout d'abord, dans un premier point, nous parlerons d'un principe fondamental qu'on doit toujours posséder quand on récite les psaumes, quand on les lit ou quand on les récite. Ensuite, cela nous amènera à un deuxième point, beaucoup plus substantiel, où nous verrons comment notre Seigneur a réparé la faute d'Adam et nous a mérité les grâces du réparateur et du rédempteur, grâce qui est supérieure à celle de l'homme en état d'innocence. Et nous terminerons rapidement par un troisième point où nous dirons comment il ne faut pas recevoir la grâce en vain. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Dans l'introïte, l'Église cite le psaume 90, psaume 90 qui revient dans le graduel et dans le trait qui le récite presque tout entier. C'est peut-être le plus long trait de toute l'année qui comporte presque tous les versets du psaume 90. Le psaume qui habitat in adiutorio altissimi, celui qui habite sous l'ombre des ailes du Seigneur. Il y a un principe fondamental, mes très chers frères, que nous devons garder toujours à l'esprit, spécialement quand nous récitons les psaumes, quand nous disons les psaumes. Ce principe fondamental est le suivant. Toutes les promesses que contiennent les psaumes sont pour le Messie exclusivement. Chaque fois que Dieu s'adresse à l'homme, c'est pour... et qu'il lui donne une promesse, promesse d'aide, promesse de protection, c'est au Messie qu'il s'adresse. Lorsque Dieu reproche évidemment à l'homme sa dureté, etc., il s'adresse à nous, c'est bien évident. Mais toutes les belles choses que l'on trouve dans les psaumes, tout ce qu'on pourrait appeler familièrement les passages très encourageants, les versets très encourageants, sont tous adressés au Messie. Nous n'avons droit à aucune promesse qui est formulée dans les psaumes. Pourquoi ? Parce que nous n'en sommes pas dignes. Une fois que nous avons compris cela, nous avons compris que tout ce qui est promis au Messie dans les psaumes, le Messie l'a mérité à notre profit. C'est-à-dire que, avant de dire « toutes les promesses qui sont dans les psaumes sont pour moi, pour m'encourager, pour ma consolation, etc. », ce qui n'est pas faux, bien sûr, mais nous devons dire « elles s'adressent au Messie ». C'est Dieu qui parle au Messie, au Christ. Et dans le Christ, toutes ces promesses me sont adressées aussi, puisque je ne fais qu'un dans l'Église, par l'Église, par le baptême, avec le Christ. C'est un principe extrêmement important, parce que sinon on pourrait s'imaginer, surtout les modernes, autrefois la question ne se posait pas tellement, mais la modernité est vraiment une maladie mentale. Donc du coup, notre intelligence est mal orientée. Nous avons l'impression que lorsque Dieu promet quelque chose dans les psaumes, ça s'adresse à tout le monde, voire éventuellement même aux païens, aux mécréants. Nous ne pouvons pas dilapider les promesses divines en les distribuant inconsidérément aux païens. Ne donnez pas des perles aux pourceaux, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne se retournent et qu'ils ne vous dévorent. Donc, Voyez-vous, mes très chers frères, nous devons aborder les psaumes avec une extrême humilité, sachant que rien ne nous est adressé, aucune promesse ne nous est adressée. Toutes les promesses de Dieu sont adressées au Messie, et ce n'est que dans le Christ, dans le Messie, que nous avons droit à ces promesses, et que Dieu fait le serment de tenir ces promesses à nous qui sommes dans le Christ. Le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai homme, comme vous le savez. Il est vrai Dieu, il est en même temps vrai homme. Son humanité est une vraie humanité. Il a pris son humanité de la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'elle a conçu et elle a mis au monde un enfant, c'est-à-dire le Fils de Dieu, selon la chair, qui est un vrai homme comme nous. C'est-à-dire qu'il est véritablement humain comme nous. Ce n'est pas, il est beaucoup mieux, évidemment, il est le Fils de Dieu, innocent. Mais il se trouve que ce n'est pas une apparence, ce n'est pas une théophanie, ce n'est pas comme quand les anges se manifestent, par exemple quand Saint Raphaël se manifeste à Tobie, il prend l'apparence d'un jeune homme, d'un voyageur, d'un homme, mais la réalité c'est qu'il ne mange pas, il ne boit pas, c'est une apparence, ce n'est pas un vrai corps. C'est un corps tangible mais apparent. Notre Seigneur a un vrai corps, cela est très important, un vrai corps, une vraie âme, évidemment, une âme unie à son corps, c'est-à-dire que c'est un homme. C'est un homme, véritablement humain. Cette humanité véritable est hypostatiquement unie à la divinité. C'est-à-dire qu'elle est indissociablement unie à la divinité du Verbe, de telle sorte qu'à aucun moment, cette humanité n'a-t-elle existé indépendamment du Verbe. Notre Seigneur n'est pas un homme que Dieu a choisi et à un certain moment, il lui a révélé sa mission. Comme par exemple certains, les prophètes, par exemple. Encore que certains prophètes ont été appelés dès le sein de leur mère. Mais notre Seigneur, c'est encore plus. Notre Seigneur, son humanité est indissociablement unie à la divinité du Verbe éternel de Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière, engendré, non créé. Il est, nous dit la théologie, une seule personne qui a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Il a deux volontés. Mais il se trouve que cette volonté, la volonté humaine, la volonté de l'homme, est tellement bien unie à la volonté divine qu'elle est parfaite. C'est-à-dire que l'homme exerce parfaitement sa volonté lorsqu'il veut tout ce que Dieu veut. Et notre Seigneur, sa volonté humaine, était si bien unie à sa volonté divine qu'elle ne faisait qu'une seule chose avec elle, sachant que sa volonté humaine était parfaite. Donc, puisque c'est la perfection de la volonté humaine que de vouloir la volonté de Dieu, et la volonté divine du Verbe, c'est la volonté divine de Dieu, puisque le Verbe est Dieu. Cela a mené certains à penser que notre Seigneur n'avait qu'une seule volonté, puisque s'il disait « s'il a deux volontés, il y a une possibilité de dissonance ». Ce sont les monothélites. Les monothélites sont une sorte d'hérésie un peu légère, disons, enfin, on a toujours tort d'être hérétique, mais enfin, disons, c'est-à-dire qu'il voulait si bien faire en disant que sa volonté humaine était si bien unie à celle de Dieu qu'il n'y avait qu'une seule volonté, qu'il risquait de donner l'impression que c'était un homme sans volonté, donc du coup, c'était un homme qui était incomplet. La volonté divine et la volonté humaine sont distinctes dans le Christ, mais en réalité, elles sont unies, puisque la volonté humaine est faite pour adhérer totalement jusqu'à se perdre dans la volonté divine. De telle sorte qu'elle est véritablement libre et, je dirais même, véritablement toute puissante, puisque ne voulant que ce que veut Dieu, on a toujours raison et on ne peut être surpris par rien. Le Christ... Et nous l'avons dit, le destinataire, le sujet, le bénéficiaire de l'aide divine, dont il est question, par exemple, dans le psaume 90 d'aujourd'hui, « Il m'invoquera et je l'exaucerai, je le glorifierai, je le délivrerai, je le glorifierai. » Il est le bénéficiaire, le sujet de l'aide divine, mais non pas pour lui, mais pour nous. Dieu le Père n'a pas besoin de promettre à l'humanité de son Fils qu'il l'aidera, puisque l'humanité de son Fils étant unie à sa divinité, il s'aide lui-même. Mais il se trouve que, véritablement, Dieu dit à son Messie qu'il l'exaucera, qu'il le délivrera, qu'il le glorifiera, non pas pour lui, mais pour nous. Il y a donc, mes très chers frères, une chose très importante à savoir, c'est que dans le Christ, nous sommes identifiés avec le Verbe éternel de Dieu, vrai homme, vrai Dieu et vrai Dieu et vrai homme dans son humanité, par son humanité, car nous ne sommes qu'humains, nous sommes identifiés dans le Verbe divin aux yeux de son Père, à, au propre Fils de son Père. Il se trouve, voyez-vous, mes très chers frères, que en méritant pour nous, et non pas pour lui, car il n'avait rien à mériter, il était parfait, il était innocent, il est l'homme innocent, il était le juste par excellence. En méritant pour nous, en s'incarnant et en méritant pour nous, en souffrant, en méritant pour nous, en obéissant à Dieu et en méritant pour nous, toujours de la même manière, il a réparé la prévarication de nos premiers parents. Le Christ a accompli la justice de la loi, ce qu'aucun homme n'avait jamais fait. Il a expié l'offense de nos premiers parents, chose impossible à l'homme. Il a subi le châtiment, c'est-à-dire la peine de la faute, chose qui est possible à l'homme, mais pour son malheur éternel, c'est-à-dire c'est la damnation. Notre Seigneur a subi la damnation, c'est une chose, une vérité dont il faut se pénétrer pour arriver dans de bonnes dispositions pendant la semaine sainte. Notre Seigneur, en tant qu'homme, a subi la peine de la damnation éternelle en lui-même, sachant que cette éternité de damnation a été supportée et subie par lui au moyen de sa divinité. C'est-à-dire que l'infinie divinité a donné à sa nature humaine la capacité de porter en une seule fois la condamnation éternelle de tous les élus, de telle sorte que nous puissions échapper au châtiment éternel, non pas par une sorte de sauf-conduit, de bienveillance divine, etc., mais parce que cette peine qui nous était réservée a été assumée, expiée, accomplie par le Christ. Voilà quelque chose qui, à elle seule, peut motiver une reconnaissance aussi immense qu'un être humain est capable de la posséder. Malheureusement, nous sommes si durs, si méchants, si oublieux que nous avons besoin d'autres considérations encore pour nous exciter à la reconnaissance. Mais si nous méditions uniquement cet aspect des choses, ce serait déjà suffisant. Que Dieu nous y aide, mes très chers frères. Donc il a subi le châtiment, la peine éternelle. Il a mérité, pour eux, pour les élus, il a mérité pour ce que Dieu lui a donné. C'est-à-dire que c'est à nous qui sommes convertis, qui sommes sauvés, sauvés de la perdition éternelle, en puissance du moins, tant que nous sommes ici-bas, mais pourquoi ne pas s'approprier déjà cette promesse ? Nous avons tout pleinement en lui, dit l'Écriture sainte. Nous avons tout pleinement en lui. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, ça signifie, nous disent les commentateurs, qu'avec lui, nous pouvons tout. Maintenant, si nous avons tout pleinement en lui, mes très chers frères, s'il a mérité pleinement pour tous les hommes qui se tournent vers lui, alors, mes très chers frères, cela signifie que sans lui et hors de lui, il n'y a que impuissance, péché, culpabilité, colère de Dieu. Voyez-vous, nous avons dit que ce principe doit être toujours gardé à l'esprit quand nous récitons les psaumes. Le principe est le suivant, encore une fois: toutes les promesses faites par Dieu dans les psaumes s'adressent au Messie. Et ce n'est que dans le Messie, dans le Christ, que nous y avons droit. Ce principe est absolument fondamental. L'ignorer, voyez-vous, mes très chers frères, c'est se condamner à l'échec. Nous essayons de faire bon usage des grâces que Dieu nous aurait promises dans les psaumes, mais à nous directement, c'est impossible. Ou alors à la propre justice, parce que si par hasard, nous arrivons à nous comporter bien, et ce sont des choses qui peuvent arriver, nous tombons dans la propre justice, c'est-à-dire que nous nous imaginons que nous avons obéi à Dieu par nos propres forces, ce qui est impossible. Alors, vous allez dire, évidemment, pour ceux qui n'étaient pas là les fois précédentes, vous allez dire, oui, mais alors comment ça se fait qu'on arrive à obéir à Dieu ? On arrive à obéir à Dieu par la puissance de notre concupiscence, qui veut faire une fleur à Dieu, qui veut montrer à Dieu que Dieu a eu confiance, a eu raison de nous faire confiance, et que nous ne le décevrons pas. C'est la propre justice, c'est la concupiscence, c'est le comble de l'injustice aux yeux de Dieu, même si aux yeux des hommes, évidemment, on peut prendre un propre juste pour un juste. Il n'y a rien qui ressemble plus à un juste qu'un propre juste, il n'y a rien qui ressemble plus à un innocent qu'un hypocrite. Donc voyez-vous, mes très chers frères, c'est se condamner, ignorer ce principe fondamental des psaumes, c'est se condamner à l'échec, à la propre justice, ou encore, évidemment, et cela va de pair, à l'ingratitude, et à l'illusion sur Dieu, sur nous-mêmes, sur l'existence, sur nos fins dernières. Nous avons l'impression que le ciel se gagne par les efforts que nous pouvons faire, par nos propres forces, en tirant de notre libre arbitre les forces qui nous permettront de gagner le ciel. Nous devons bien sûr gagner le ciel, c'est une expression qui est vraie, mais comment ? Dans le Christ, par les mérites du Christ. Et c'est pour ça que nous, en fait, dans le fond, si nous devons tout ignorer sauf ce que le Christ a fait pour nous, de telle sorte que ne connaissant que le Christ, nous connaissons tout ce qui est utile à notre salut, et comme c'est aussi notre devoir, les devoirs de notre État, etc., qui sont les moyens par lesquels nous devons, et les seuls moyens par lesquels nous travaillons à notre sanctification, la mise en œuvre de notre justification que nous avons reçue par le baptême, eh bien, c'est connaître le Christ, c'est connaître tout. Quand on regarde au Christ, on regarde exactement là où il faut. Comme nous disions dimanche dernier, nous regardons au serpent mis en croix, et c'est par lui que nous sommes guéris de la morsure du serpent ancien, du serpent de la concupiscence, du serpent du monde. Nous sommes tout entiers dans les ténèbres si nous ignorons que ce n'est que dans le Christ que nous pouvons quelque chose d'utile à notre salut. Alors, une fois cela posé, posons-nous la question qui nous amènera à notre second point, notre deuxième point. Comment notre Seigneur nous a-t-il obtenu la force contre les tentations, puisque c'est exactement de cela dont il s'agit aujourd'hui et tout au long du carême. C'est notre deuxième point. Dans l'Évangile, il est écrit ceci. Notre Seigneur fut conduit dans le désert par l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Immédiatement après son baptême, le Saint-Esprit a conduit notre Seigneur dans le désert. Il l'a conduit peut-être, il a peut-être poussé, comme le Saint-Esprit donne une inspiration et on la suit, ou peut-être qu'il l'a transporté, selon certains auteurs, comme certains anciens prophètes, en particulier Élie, étaient transportés d'un endroit à l'autre, mais on voit aussi Saint-Philippe, Diacre, etc., qui étaient transportés d'un endroit à l'autre. Peu importe, l'essentiel c'est qu'il se soit retrouvé dans le désert, poussé par le Saint-Esprit, donc non pas par sa volonté propre, mais par le Saint-Esprit, et non pas que le Christ ait eu une volonté propre, mais ce n'était donc pas par la volonté propre, donc par le Saint-Esprit, afin qu'il y fût tenté par le diable. Les commentateurs nous disent que c'est là la retraite que notre Seigneur a faite, et qui est inimitable, une retraite avant son ministère public. Il s'est non seulement retiré dans le désert pour y faire pénitence, comme Moïse, qui pendant 40 ans a été dans le désert, berger dans le désert, pour faire pénitence du mouvement de volonté propre qu'il a eu en tuant l'Égyptien, comme vous le savez. Et ensuite, il a été appelé par Dieu. Notre Seigneur, on peut dire que notre Seigneur a fait pénitence, mais encore une fois, non pas pour lui, mais pour nous, bien sûr, vous l'avez compris, mes chers frères. Notre Seigneur a fait pénitence pour nous. C'est pour cela que chacun doit faire pénitence pour soi, en se mettant au bénéfice des mérites du Christ. Mais le Christ, n'ayant pas à faire pénitence, la pénitence qu'il a faite, il l'a faite pour nous, de telle sorte que nous puissions faire pénitence. Personne ne pourrait faire pénitence si le Christ n'avait fait pénitence pour lui en premier. Ce n'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé en premier. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi en premier. Le principe de la pénitence, et c'est une chose très importante à savoir en carême, c'est que le principe de la pénitence consiste à diminuer devant Dieu que l'on a offensé en voulant se grandir devant ses yeux ou contre lui. Nous y reviendrons. Il y a une folie de l'ambition humaine, je dirais même spirituelle, je ne parle pas de l'ambition humaine matérielle, une certaine ambition spirituelle, humaine, qui est une véritable folie. Elle consiste à vouloir s'élever devant Dieu sans s'être abaissé. Levez-vous après vous être assis, dit mystérieusement le psaume. C'est une grande folie que de vouloir s'élever devant Dieu, et nous le faisons, de temps en temps nous sommes tentés par cela, nous le ferions d'autant plus volontiers que il y a une très grande jouissance, une jouissance qui à la fin s'avère amère, bien sûr, mais une très grande jouissance dans l'usage de ce qui est dérobé. C'est pour cela que l'Écriture dit que les eaux douces les eaux dérobées sont très douces. C'est-à-dire que lorsque nous agissons par notre propre volonté, nous sommes extrêmement motivés, pour parler d'une façon un peu familière. Lorsque nous agissons selon la volonté de Dieu, nous sommes constamment tentés au découragement. Pourquoi ? Et parce qu'il n'y a rien de plus motivant que de faire ce que l'on veut, même ce que l'on veut pour Dieu. Tandis qu'il n'y a rien de plus décourageant pour le vieil homme que de se soumettre constamment à la volonté divine en renonçant en permanence à la sienne propre. Et c'est exactement cette chose qui va contre notre nature déchue, que le Christ a... C'est exactement pour nous rendre possible cette chose qui va contre notre nature déchue, que le Christ a fait pénitence au désert et qu'il nous a mérité de pouvoir faire pénitence et donc de pouvoir nous humilier devant Dieu, de cesser d'être des voleurs, comme dit saint Paul, devant Dieu. Quelle a été, quand nous regardons l'action de nos premiers parents dans le paradis terrestre, quel a été le résultat de la volonté propre de déification de l'homme? L'homme a voulu être déifié indépendamment de Dieu. Comment, quel a été le résultat? La nudité, la crainte, la dissimulation, les solutions inadéquates, le fait qu'il se soit fait des vêtements de feuilles de figuier que Dieu n'a pas à rejeter, parce que c'était de mauvais vêtements, les solutions inadéquates, la condamnation, l'exil, la malédiction du sol, évidemment, et surtout la concupiscence héréditaire. Et pour couronner le tout, mes très chers frères, cet amour incompréhensible qui, de nous-mêmes, cet amour de tout cela, qui nous fait perdurer dans cet état avec une certaine délectation dès que nous devenons à l'être, dès que nous naissons. Il y a quelque chose de monstrueux dans l'homme déchu, mes très chers frères, et c'est pour faire de l'homme à nouveau une créature faite à l'image de Dieu, et non plus un monstre anciennement fait à l'image de Dieu, que le Christ est allé dans le désert, conduit par le Saint-Esprit, pour y être tenté. Le baptême, pour le chrétien, le baptême remet la dette du péché. Mais encore faut-il faire pénitence pour le mal perpétré. Tout commence par la pénitence, mes très chers frères, que l'on soit un chrétien depuis très longtemps, que l'on soit un chrétien d'hier, simplement, nous sommes appelés à la pénitence, et le carême est là pour donner l'amorce à la pénitence de toute notre vie. Notre Seigneur a été conduit au désert, nous l'avons lu, pour être tenté par le diable. C'est le Saint-Esprit qui a exposé notre Seigneur à la tentation. D'une certaine manière, évidemment, tout cela est absolument inimitable. Personne ne peut dire « je sens que le Saint-Esprit me dit d'aller dans des lieux impurs ou tentants, tentateurs, et pour éprouver ma... » Si quelqu'un pense cela, il se trompe nécessairement. Il se trompe nécessairement, ce ne peut pas être le Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'inimitable. Évidemment, notre Seigneur est l'homme innocent, le juste par excellence, le nouvel Adam, et il est vrai Dieu. Maintenant, il se trouve, mes très chers frères, que notre Seigneur n'avait nul besoin d'être tenté. C'est pour cela qu'il a dû être soumis volontairement à la tentation. Dans son cœur, il n'y avait rien qui faisait écho aux paroles du diable. Puisqu'il le dit lui-même, « Qui me convaincra de péché ?» Et il dit ailleurs, « Il n'a rien en moi » en parlant du diable. « Il n'a rien en moi. » Les pères nous disent que cette acceptation volontaire de la tentation a été toute intérieure. Notre Seigneur ne s'en est pas fait une gloire, de telle sorte que le diable, voyant cet homme dont le Père Céleste disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances » lors de son baptême, le diable ne savait pas exactement s'il s'agissait de Dieu incarné ou s'il s'agissait d'un prophète ou peut-être du Messie, mais selon une certaine idée des choses, le Messie comme étant un homme exceptionnel, un homme hors du commun, le prophète des prophètes, que sais-je, le roi David, bref. Quelqu'un d'extrêmement favorisé par Dieu, mais un homme tout de même. Le diable s'est approché de notre Seigneur avec précaution. Tout d'abord, nous disent les pères, en commentant cet évangile, le diable, pendant 40 jours et 40 nuits, à tenter notre Seigneur d'une façon subtile par des tentations qui ne sont peut-être pas très différentes de celles que nous pouvons recevoir. Pour notre Seigneur, ce sont des tentations qui sont, si l'on peut dire, équivalentes d'une non-tentation. Puisque comme rien ne faisait écho au diable dans son cœur, il n'avait aucune concupiscence, rien ne pouvait l'ébranler. Pendant 40 jours et 40 nuits, le diable l'a tenté, si j'ose dire, à l'échelle normale, et il s'est aperçu que c'était en vain. Et c'est pour ça qu'il est dit, et après 40 jours et 40 nuits de jeûne, il eut faim. Et le tentateur s'approchant lui dit, etc., etc. Le diable s'est manifesté directement, il s'est montré à lui, irrité, nous disent les pères, irrité et inquiet. Quel est cet homme ? Et il lui dit, si vous êtes le fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. Que signifie fils de Dieu ? L'expression fils de Dieu est une expression que l'on retrouve par-ci par-là dans l'Ancien Testament pour désigner les anges, pour désigner les justes, pour désigner les anges et les justes en général, désigner aussi certaines catégories d'anges, puisque dans le prologue du livre de Job, par exemple, il est dit que les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu et le Satan parmi eux. Donc c'est une sorte d'ange. Donc, si vous êtes le fils de Dieu, c'est moins une tentation du diable, contrairement à ce qu'on peut penser, que le diable inspire au Christ pour lui faire douter de lui-même, ce qui est absurde, mais c'est pour vérifier en quoi consiste exactement cette expression « fils de Dieu » pour cet homme. Les Juifs le comprendront bien dans le Sanhédrin, lorsque notre Seigneur dira « Je suis le fils de Dieu », et donc ils comprendront qu'il est l'égal de Dieu. Maintenant, il se trouve que pour le diable, c'était le premier à s'en rendre compte, il s'en rendait compte aussi d'une manière angélique, et non pas humaine, non pas théologique si l'on peut dire, mais d'une façon angélique. Donc, il fallait qu'il vérifie. Tout ceci peut paraître un peu étrange, un peu folklorique, comme vous dites, mais c'est l'enseignement des pères. Nous devons être extrêmement attentifs à ces enseignements et ne jamais nous en départir, de peur de d'entrer dans des amorces qui nous feraient rationaliser à outrance la mission de notre Seigneur, et on en viendrait à oublier complètement qu'il est beaucoup plus qu'un bon exemple, d'ailleurs s'il n'était qu'un exemple il serait inimitable, mais qu'il est le réparateur et le rédempteur. Nous aurons peut-être à y revenir, Dieu voulant, lors de ces prochains sermons, surtout vers la fin, quand nous nous approcherons de la Semaine Sainte. Donc, le Saint-Esprit emmène notre Seigneur dans le désert, afin qu'il soit tenté, volontairement. Le diable se montre à lui, et il se trouve que Dieu, qui avait permis au diable d'éprouver Job, à présent, sans que le diable ne le sache, c'est Dieu lui-même que le diable tente, qui se fait tenter par le diable, qui accepte d'être tenté par le diable. Encore une fois, pourquoi Dieu n'a pas besoin d'être tenté par le diable pour savoir exactement ce que c'est que la tentation du diable. Dieu le Fils s'est soumis volontairement à la tentation diabolique la plus subtile, la plus terrible, afin de nous mériter, ne l'oubliez jamais mes très chers frères, de nous mériter la grâce du Rédempteur, la grâce du Réparateur, afin que nous puissions échapper à la tentation, afin que nous puissions résister à la tentation. Ce n'est plus Job, c'est le vrai Job qui est tenté pour montrer et pour mériter une grâce supérieure à celle de l'innocence d'Adam, d'Adam en état d'innocence. Il y a trois étapes. Notre Seigneur a réparé la faute originelle en trois étapes. La première correspond à la première tentation. Si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. Il y a énormément de choses à dire, bien entendu, mais je dirais simplement certaines choses qui me paraissent les plus utiles aujourd'hui. Notre Seigneur a réparé, nous disent les pères, la gourmandise d'Adam. Alors, souvent ça fait sourire, on dit ça fait sourire les mécréants, ou ça fait rire, ça fait grincer des dents les mécréants en disant quoi, c'est pour une pomme, la gourmandise d'une pomme, en plus une pomme c'est pas forcément aussi bon que ça, enfin, bref, c'est vraiment ridicule de parler de gourmandise. Non, C'est une gourmandise qui s'est montrée, qui s'est manifestée matériellement. Effectivement, ce fruit apparaissait bon à manger, propre à donner la sagesse. C'est une gourmandise donc pas tellement d'ordre matériel que d'ordre spirituel d'une certaine manière. La gourmandise d'Adam, quand on la considère vraiment avec sérieux, c'est un désir dévié de manducation sacramentelle. Vous allez dire peut-être, oui, il désirait manger quelque chose de plus substantiel, de plus sacramentel que les fruits du jardin. Alors déjà, c'est insulté aux fruits du jardin quand on dit ça, parce que ces fruits étaient dans un état de non-déchéance, donc la nature n'était pas encore frappée par la malédiction d'Adam, donc qu'a mérité Adam pour elle. Donc, déjà, il ne faut pas dire ça, et il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait l'arbre de vie qui portait du fruit, le fruit sacramentel, que l'on compare à notre Seigneur, évidemment, qui est le fruit qui nous donne la vie éternelle. Adam, par son désir dévié de manducation sacramentelle, a commis un péché de gourmandise spirituelle en méprisant l'arbre de vie et en oubliant sa vertu, la vertu de l'arbre de vie. D'ailleurs, l'arbre de vie a deux vertus. Il a la vertu une vertu sacramentelle, de rapprocher de Dieu et de faire monter l'homme par les degrés spirituels jusqu'au ciel. Mais aussi, il a la vertu de rallonger, de donner une vie sempiternelle. C'est pour cela qu'actuellement, mes très chers frères, les saints Enoch et Élie sont dans le paradis terrestre où ils se nourrissent depuis 4000 et 3000 ans, ou un peu plus, un peu moins, ils se nourrissent du fruit de l'arbre de vie. C'est pour cela qu'ils sont encore en vie jusqu'à ce qu'ils reviennent pour la mission qui est la leur. Donc on voit bien que c'est cela. Maintenant, notre Seigneur, lorsque Adam a été châtié, a été condamné, il dit « Je vais leur fermer l'accès à l'arbre de vie afin qu'ils ne vivent pas éternellement, sachant que ça serait une malédiction terrible et un bien vilain mouvement de la part de Dieu, si j'ose dire, que de laisser l'homme vivre éternellement dans un état de déchéance. C'est pire que l'enfer, si l'on peut dire, c'est quelque chose d'horrible à imaginer. Donc, c'est comme, sous un certain rapport, c'est une grâce que l'homme soit devenu mortel après avoir mangé du fruit défendu, de l'arbre défendu. Voyez-vous, mes très chers frères, notre Seigneur dit à cet apôtre, lorsque fatigué, il s'est assis près du puits et qu'il a eu cette discussion avec cette femme, à laquelle il a fini par lui dire d'aller chercher son mari, pour la confondre, ces apôtres reviennent avec les courses et ils veulent lui donner du pain et notre Seigneur leur dit « j'ai un autre pain dont je me nourris ». Alors les apôtres, un peu terre à terre, pensent que quelqu'un lui a apporté de la nourriture. Notre Seigneur lui dit « c'est de faire la volonté de mon Père ». Notre Seigneur n'a dit cela aux apôtres que parce qu'il l'avait déjà dit au diable lors de sa tentation. L'homme ne vit pas, dit-il, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si notre Seigneur ne s'était pas nourri de ce pain-là, nous ne pourrions pas nous en nourrir à notre tour. Si notre Seigneur n'avait pas, par son abstention de pain matériel, qu'il aurait très bien pu non seulement faire à partir de la pierre, mais il aurait même pu matérialiser des pains devant lui s'il l'avait voulu, eh bien, notre Seigneur, en s'en abstenant, a réparé non seulement la gourmandise matérielle de notre premier père, mais encore et surtout la gourmandise spirituelle, qui consiste dans le mépris de la manducation sacramentelle pour manger autre chose qui nous paraît à certains moments meilleur, à un niveau ou à un autre. Comment se nourrir du pain de la volonté de Dieu ? Sinon, mes très chers frères, en fréquentant l'Écriture sainte, puisque ce n'est que dans l'Écriture sainte que Dieu nous fait connaître sa volonté. Ce n'est que par l'intelligence que nous donne l'Écriture sainte que nous pouvons mettre en œuvre la charité opérant par la foi. C'est ainsi que nous controns efficacement la concupiscence qui nous fait nous aimer nous-mêmes jusqu'au mépris de Dieu. Le Christ nous a permis, nous a mérité de pouvoir résister à ce mépris que nous avons secrètement pour Dieu et sa volonté. Alors vous allez dire, est-ce qu'un effort de la volonté de l'homme n'aurait pas pu arriver au même... est-ce qu'on ne pourrait pas dire au même résultat? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la grâce de Dieu et la grâce du Christ est là pour nous rendre plus facile quelque chose qui quand même doit venir d'un effort de notre volonté? Si vous croyez que la grâce du Christ nous est donnée pour nous rendre plus facile l'obéissance au commandement, bravo, vous êtes pélagien, vous êtes hérétique. Voyez-vous, mes très chers frères, la grâce du Christ est absolument nécessaire pour rendre à notre volonté la liberté qui consiste à se soumettre à la loi de Dieu et à lui obéir en tout, en toute chose, contre elle-même, inclusivement. Passons à la deuxième étape de la réparation opérée par notre Seigneur. Deuxième tentation. « Alors le diable le transporta dans la cité sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, et le diable cite l'Écriture. À propos, il a donné des ordres à ses anges, à votre sujet, et ils vous porteront dans leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. Et que fait notre Seigneur? Il lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le démon n'élève, dit un commentateur, que pour mieux précipiter en bas. Si le diable a traité ainsi notre Seigneur, sur la nature duquel il n'avait aucun droit, à combien plus forte raison devons-nous nous attendre à être traités par lui de la même manière ? Notre Seigneur répare la curiosité, gourmandise, curiosité maintenant, la curiosité d'Adam, notre premier père. Elle venait de la défiance de Dieu et de l'acceptation dans sa conscience de l'accusation de jalousie et de mesquinerie portée par le diable, le serpent ancien, contre Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit non, Dieu sait que vous ne mourrez pas, bien sûr, Dieu vous a dit que vous mourrez. Vous ne mourrez pas. Alors, encore une fois, les mécréants, les impies, les gens faussement simples s'imaginent que le récit de la chute est un récit ridicule, enfantin, on dirait un conte de fées et qui ne convainc aux personnes. Au contraire, plus on le médite, à la lumière de l'Écriture, à la lumière de la tradition évidemment, plus on le médite, plus on s'aperçoit qu'il était impossible de formuler les choses autrement que de la manière dont l'Écriture les formule. C'est véritablement ainsi que cela s'est passé, et cela s'est passé dans l'absolu, non pas dans le relatif de nos petites existences déchues, dans l'absolu de l'état d'innocence. Adam s'est laissé, alors je dis Adam, ça serait Ève, mais enfin Adam par Ève, malheureusement, Adam s'est laissé persuader que Dieu n'était pas sincère. Il a donc eu la curiosité de connaître ce que Dieu avait défendu de connaître. Le diable cite l'Écriture par laquelle notre Seigneur l'a renversée et récusée. Le diable, ai-je dit, cite l'Écriture à propos parce qu'effectivement, il connaît bien le principe que nous avons exposé dans le premier point. Toutes les promesses des psaumes s'adressent au Christ. Il cite le psaume qui s'adresse au Christ. Et effectivement, il dit si vrai que, en bien d'autres occasions, notre Seigneur a été protégé conformément à cette promesse. Lorsque les Juifs voulaient le précipiter du haut de la falaise, lorsqu'ils voulaient prendre des pierres, ils avaient pris des pierres pour le lapider, il disparut, il a été soustrait du milieu d'eux. Donc effectivement, son pied n'a jamais heurté contre une pierre. C'est pour ça que c'est une grave erreur que de représenter dans certaines animations cinématographiques, montrer notre Seigneur enfant butant contre une pierre. C'est impossible. Notre Seigneur n'a jamais buté contre une pierre. Ça, c'est le propre de l'homme déchu de buter sur les pierres. Notre Seigneur, jamais. Pourquoi ? Parce que le psaume dit que les anges le porteraient sur leurs mains plutôt que son pied ne heurte contre la pierre. Attention à ces choses, ces licences poétiques, mais il n'y a pas de poésie humaine dans la vérité de l'Écriture sainte. Notre Seigneur n'a jamais buté contre une pierre. Le diable cite à propos l'Écriture sainte, mais il ne se rend pas compte, parce que c'est le diable, justement, il est aveuglé, que dans le même psaume, il y a une autre promesse qui est mentionnée, qui est d'ailleurs citée dans le trait. « Ils vous porteront dans leurs mains de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. Vous marcherez sur l'aspic et le basilic. Vous foulerez aux pieds le lion et le dragon. » Voyez-vous, qu'est-ce que ça nous apprend ? Est-ce que ça nous apprend à rire aux dépens du diable ? Ah, quel gros bêta, il n'a pas lu le psaume. Etc. Non, faisons, déjà ne nous moquons pas du diable, mes très chers frères, et soyons très attentifs. Faisons attention. Ça signifie que quand on dit « Oh, l'Écriture peut être tordue dans tous les sens, regardez, le diable cite l'Écriture, les protestants citent l'Écriture, les hérétiques citent l'Écriture, l'Écriture se prête à absolument tous les sens possibles, c'est un salmigondi, un galimatia incompréhensible, heureusement qu'il y a l'Église pour mettre de l'ordre dedans. » Quand on dit cela, on est diabolique, mes très chers frères. Le diable Quand il s'aventure à citer l'Écriture pour tenter notre Seigneur, est immédiatement foudroyé par elle. L'Écriture n'a jamais qu'un seul sens. C'est l'Église catholique qui en est le dépositaire, évidemment. Mais il se trouve que, comme elle a un seul sens, c'est-à-dire, je ne parle pas des quatre sens de l'Écriture, je dis, ce n'est pas une sorte de tourbe dans laquelle on imagine trouver des choses dans la mesure où on est catholique, non. Elle a un sens. L'Église nous le garantit, nous le montre dans les pères, par les pères, etc., bien entendu. Mais il se trouve que lorsque on se laisse aller à insulter l'Écriture et à dire qu'elle n'est pas la référence des catholiques parce que, contrairement aux autres, aux sectes, etc., parce que nous avons la tradition, c'est totalement faux. L'Écriture est la tradition écrite et nous avons la tradition orale en même temps qui n'est que le commentaire autorisé de l'Écriture. Chaque fois que vous voyez quelqu'un, toutes les fois que vous voyez quelqu'un qui parle à la légère de l'Écriture, qui insulte, injurie l'Écriture, qui la méprise, sachez qu'il est animé par l'esprit du démon. Je le dis d'une façon simple, claire et précise. Quiconque injurie, méprise, et d'autres choses plus subtiles, l'Écriture sainte, est animé par le démon. Car l'Écriture sainte est la tradition écrite, dont la tradition orale est le développement et le commentaire. La tradition orale n'est pas supérieure à la tradition écrite. La tradition orale est nécessaire à la tradition écrite, sans laquelle sa porte reste fermée. La porte du cellier divin reste fermée, et toutes les excellentes choses qu'il y a dedans nous restent inaccessibles. Mais il se trouve que l'Écriture sainte est véritablement la règle de la conduite des chrétiens. C'est pour cela que toute œuvre de morale qui se respecte, tout traité de morale qui se respecte, n'est pas un commentaire des vertus de l'éthique à Nicomaque et à Eudème d'Aristote, c'est un commentaire des 10 commandements, c'est un commentaire du sermon sur la montagne, c'est un commentaire de l'Écriture sainte. Sinon, qu'est-ce que c'est? Sinon, c'est une œuvre de fiction de l'amour propre, de la gentilité, c'est une œuvre du diable parce que c'est une sagesse terrestre, charnelle, diabolique, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jacques. Voyez-vous, mes très chers frères. Alors, faisons très attention. Le diable cite l'Écriture à propos, mais il est immédiatement foudroyé par elle, et notre Seigneur ne lui dit pas « Oh, je suis catholique, vous avez beau citer la Bible, moi c'est la tradition ». Il dit « Il est aussi écrit ». C'est pour ça que nous ne devons pas simplement connaître une partie de l'Écriture, nous devons connaître toute l'Écriture. En tant que catholique, de telle sorte à pouvoir ne pas, avec l'aide de la grâce de Dieu, ne pas être tenté par le diable qui tirerait un passage hors contexte, ou même qui le citerait à propos, mais en opposition avec l'Écriture sainte. Aimons l'Écriture, vénérons l'Écriture, si nous ne comprenons pas l'Écriture, ce qui est très, très fréquent, adorons-la, et prêtons l'oreille à l'Église, consultons nos pasteurs légitimes pour savoir le sens de l'Écriture, et qui nous le donneront avec l'aide de Dieu, mais ne nous rebellons jamais contre elle et ne la méprisons jamais, car ce serait sortir de la voie. Notre Seigneur répare donc la curiosité de notre premier Père en citant l'Écriture sainte, qui nous donne la capacité, et nous méritant ainsi la capacité de ne pas sortir ou de réintégrer la voie étroite qui mène au ciel. Notre Seigneur refuse de tenter Dieu en rejetant, nous disent les commentateurs, une fausse confiance en lui. Ce n'est pas parce que Dieu a promis de nous garder dans le Christ que nous devons faire n'importe quoi, voyez-vous ? Et en cela, il nous a mérité de pouvoir ne pas sortir des règles de notre état et de notre condition, et il nous a mérité de demeurer saintement et pieusement et avec intelligence dans nos devoirs dans lesquels nous nous guidons par la raison, illuminée par la foi. Ce n'est pas parce que nous savons qu'il est impossible que nous mourions avant l'heure décidée par Dieu de notre mort, que nous pouvons faire n'importe quoi. Si nous allions jusqu'au bout de cette folie, cela montrerait simplement que Dieu nous a laissé à notre sens réprouvé et qu'il nous, il veut faire de nous un exemple terrible pour les justes. Que cela nous soit épargné, mes très chers frères, prions-le les uns pour les autres, que nous ne soyons jamais donnés en exemple terrible aux autres, en exemple à ne pas imiter. La tentation de Dieu, nous en avons parlé les années précédentes, si vous vous souvenez un petit peu, disons une seule chose. Je dirais aujourd'hui que des fois on se dit, est-ce que j'ai tenté Dieu ? Est-ce que je n'ai pas tenté Dieu ? Que sais-je ? Alors, il faut consulter, ce sont des questions qui sont souvent très subtiles, mais il y a un symptôme typique de celui qui a tenté Dieu et qui, évidemment, ne se doute de rien et s'imagine ne pas l'avoir fait. Il y a un symptôme, écoutez bien, un symptôme de celui qui a tenté Dieu, c'est quand on a une vive déception, une énorme et une vive déception vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de la foi, vis-à-vis du christianisme, etc. Je dirais même vis-à-vis des chrétiens. Ce sont des choses qui arrivent souvent. J'ai tenté Dieu parce que j'ai cru que je pouvais m'approprier les promesses divines et les accommoder au flux de ma concupiscence. J'ai été déçu parce que j'ai tenté Dieu. Un symptôme donc de celui qui a tenté Dieu, c'est cette énorme déception. Alors vous allez dire, oui, mais j'en connais beaucoup qui sont déçus de la religion. Que ces gens-là s'examinent eux-mêmes et qu'ils voient comment ils ont tenté Dieu. Dieu ne déçoit jamais. Donc si l'on est tenté par Dieu, c'est que l'on s'est écarté volontairement, sciemment, de la bonté divine. On est déçu parce que, non pas parce que Dieu nous a lâchés, mais on est déçu parce qu'on n'est pas arrivé à faire de Dieu notre valet. Et quand on y pense bien, il n'y a rien de plus méprisable, il n'y a rien de plus détestable, il n'y a rien de plus odieux à considérer que quelqu'un qui veut faire de Dieu le valet de sa volonté propre, l'esprit familier serviteur de sa concupiscence. Quelle horreur, le Seigneur Sabaoth, quelle horreur de même de pouvoir effleurer par la pensée cette idée. On a cru qu'on pouvait faire servir Dieu à notre amour propre et on a été déçu. Celui qui est déçu de Dieu, de la religion, etc., c'est celui qui a tenté Dieu. Et la troisième étape par laquelle notre Seigneur répare l'horrible prévarication de nos premiers parents, c'est dans la troisième tentation. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et il lui dit, je vous donnerai toutes ces choses si vous prosternant, vous m'adorez. À strictement parler, le diable ne possède rien. Le démon ne promet ce qui n'est pas à lui. Néanmoins, voyez-vous, mes très chers frères, depuis la chute, l'Écriture nous dit que le monde tout entier est soumis à la puissance du démon. Donc, sous un certain rapport, même si c'est Dieu qui pilote tout, c'est le diable qui fait, en quelque sorte, si j'ose dire, le sale boulot, c'est-à-dire la distribution des biens de ce monde, spécialement du point de vue de la concupiscence, des honneurs, des choses qui flattent la concupiscence. Alors, il faut faire des distinctions, il y a des honneurs qui sont des honneurs d'État, effectivement, qui sont légitimes, mais vous comprenez, il faut prendre tout ceci dans le mauvais sens du terme. Je dis ça rapidement parce que nous avons d'autres choses à voir. Donc, le démon promet, à strictement parler, ce qui n'est pas à lui, mais ce sur quoi il règne depuis la chute. Après tout, chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui, dit l'Écriture. Donc, l'homme s'étant laissé dominer par le démon domine sur lui. C'est pour ça qu'il ne dominait pas sur notre Seigneur et qu'il n'avait rien en lui. Il y a dans cette promesse du démon en concentré toute la doctrine de l'illusion de la concupiscence. La concupiscence nous pousse à entrer dans toutes sortes d'illusions qui sont d'autant plus substantielles qu'elles coïncident jusqu'à un certain point avec les biens de la création que Dieu a créée, donc qui est une création bonne que Dieu a créée, mais elles sont en quelque sorte faussées. Ces choses bonnes, elles sont faussées et par le diable, qui les distribue pour la perte des âmes, et par notre concupiscence, évidemment, qui n'est pas pour rien dans l'illusion dans laquelle les hommes se complaisent et qui leur fait si plaisir et dont il est si difficile de les arracher. Notre Seigneur répare par ce triomphe sur le diable, notre Seigneur répare l'ambition d'Adam. Ambition qui considérait, tout simplement, si j'ose dire, à préférer sa volonté à lui, à celle de Dieu. Ce n'était même pas encore la volonté propre, c'était la volonté d'Adam. Il l'a préférée à celle de Dieu. Voyez-vous, il s'est cru plus sage que Dieu. Et combien de fois sommes-nous pris en flagrant délit de présupposition que nous sommes plus sages que Dieu? Des fois, on dit, cette expression ne se retrouve jamais dans votre bouche, mais très chafin, « Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça ?»« Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez le savoir ?» Regardez-vous dans un miroir et vous verrez ce que vous avez fait. Maintenant, des fois, on dit « Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça ?» C'est déjà beaucoup plus subtil, mais c'est encore pire. « Pourquoi Dieu ? Je n'avais pas besoin de cela. Comment ?»« Mais alors Dieu est bête, puisqu'il n'a pas compris que vous n'avez pas besoin de ça. » Vous voyez, le simple fait de le dire me donne des frissons d'horreur et j'ai l'impression de blasphémer. Que Dieu me pardonne, c'est juste de la rhétorique, bien entendu. Je n'avais pas besoin de cela. Donc, je sais mieux que Dieu ce qui me convient. Je suis ou bien un Dieu supérieur à Dieu et Dieu n'est rien, ou alors je suis fou. Je crois que c'est la deuxième possibilité qui est la deuxième solution qui est plus probable. Voyez-vous, je suis complètement fou de me croire plus sage que Dieu. En triomphant du démon, en lui disant « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul », non seulement notre Seigneur nous a acquis le mérite de pouvoir résister aux tentations les plus subtiles du diable, l'ambition, qui proviennent de l'ambition, mue par la concupiscence, mais encore, il a permis que nous évitions cette tentation extrêmement subtile de nous croire en pratique plus sage que Dieu. Chaque fois qu'un chrétien, auquel il arrive quelque chose de évidemment pénible, dit « Mon Dieu, je vous remercie. Mon Dieu, je remercie et j'adore votre sagesse très sage, votre providence très sage, qui m'a donné exactement ce dont j'avais besoin au bon moment. » Ce chrétien-là parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et nul ne peut dire, de même que nul ne peut dire « Notre Seigneur est Seigneur » sans que cela soit par le Saint-Esprit, de même nul ne peut dire « Mon Dieu, je vous remercie » de ce qui m'arrive, parce qu'elle procède, cela procède de votre volonté, sans le Saint-Esprit. Alors évidemment, il y a toujours la sagesse humaine, mais alors on remercie le grand tout, l'univers, les algorithmes, etc. Merci mon Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la sagesse avec laquelle vous me traitez. Cela est une marque de l'action du Saint-Esprit dans le cœur, et cela n'est possible que par la grâce du grand réparateur et du rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Retire-toi de moi, Satan, dit notre Seigneur. Je ne le dis pas en latin parce que ça fait partie des exorcismes. Mais, vous voyez, l'exorcisme contre les tentations diaboliques, c'est le dernier recours. Si on peut l'éviter, cela est mieux. Non pas que ça soit trop terrible ou que ça soit trop fort, etc. Si on peut l'éviter, c'est mieux. Pourquoi ? Eh bien, parce que prenons l'exemple à contrario. Si dès qu'on est tenté par, je ne sais pas moi, il y a une chose plaisante à voir qui passe, indécente, et on se met à faire des exorcismes, mais on va démultiplier notre amour propre. Pourquoi ? Parce que le diable s'est en quelque sorte manifesté à moi sous l'apparence de cette créature trompeuse, et alors même notre Seigneur, lorsque le diable s'est manifesté à lui sous une apparence quelconque, mais reconnaissable, n'a utilisé les paroles de l'exorcisme qu'en dernier lieu. Pourquoi ? Parce que cela plaît à notre amour propre de nous penser l'objet des attentions spéciales du démon. Alors que la plupart du temps, le démon nous laisse en pilote automatique avec notre, si j'ose dire, avec notre concupiscence, c'est bien suffisant et c'est assez démoniaque et diabolique pour nous faire faire n'importe quoi. Voyez-vous, mes très chers frères, c'est en dernier lieu, retire-toi, c'est en dernier lieu qu'il faut le faire. Et encore, il ne faut pas le faire soi-même, il faut éventuellement solliciter l'Église pour qu'elle examine notre cas pour voir si c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Voyez-vous, mes très chers frères, faisons très attention. Notre Seigneur dit ceci, parole très forte, qu'il nous a mérité de pouvoir dire, ou en tout cas qu'il a mérité à l'Église de pouvoir dire, et il continue à citer l'Écriture, « Tu adoreras, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Il n'y a pas de meilleur exorcisme, mes très chers frères, que l'obéissance totale à Dieu. Même les exorcistes hors de l'Église disent que quand on a été possédé, puis que le démon a été plus ou moins éloigné ou chassé par les exorcismes qu'ils font, et qui sont souvent des exorcismes qu'ils ont pris de l'Église, ils disent qu'il faut quand même avoir un minimum de pratiques religieuses, sinon ça va recommencer. Donc si même les fils de Séva disent qu'il faut quand même faire attention parce que le démon revient s'il n'y a pas de pratiques religieuses, a fortiori, mes très chers frères, dirons-nous qu'il ne s'agit pas simplement d'exorciser le démon, il s'agit, dans cette maison balayée et ornée, d'installer la crainte de Dieu et le Saint-Esprit afin que nous ne retombions pas dans un état pire que le premier. Et notre Seigneur nous a mérité la grâce de pouvoir ne pas retomber dans un état pire que le premier. Chose impossible à la nature. Impossible à la nature. C'est pour cela que tout ce qui, selon les forces de la nature, fait un effort pour s'améliorer, deviendra in fine pire. Pourquoi ? Parce que cela est fait sans la grâce du réparateur, cela est fait hors du Christ. Or, avec le Christ, nous pouvons tout, sans le Christ, nous ne pouvons rien. Vous avez vu, mes très chers frères, comment notre Seigneur, au désert, avant de commencer son ministère public, a triomphé du démon, a vaincu, a défait l'œuvre terrible de notre premier Père. Il nous reste à voir une dernière chose, très rapidement, c'est notre troisième et dernier point. Ces paroles, « Alors le diable le laissa. » Il le laissa, nous disent les commentateurs, pour ne revenir à l'attaque que lors de la passion dans le Sanhédrin, lorsqu'il animait les Juifs contre lui pour des raisons diverses et variées, mais lorsque les Juifs l'ont interrogé, dites-nous si vous êtes le Messie, êtes-vous le Fils de Dieu ? Il ne reviendra qu'au moyen des Juifs, lors de la Passion, et entre-temps, il s'est manifesté une fois, savez-vous comment ? Lorsque Saint-Pierre, après la confession de Saint-Pierre, a dit à notre Seigneur qui parlait de sa Passion, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne se fera pas. » Nous l'avons cité dimanche dernier. « À Dieu ne plaise, Seigneur, vous ne mourrez pas. » Et qu'a dit notre Seigneur ? Oh Saint-Pierre, vous êtes bien gentil, mais vous savez, je suis quand même venu pour ça. Il a dit, arrière de moi, Satan, car tu n'as pas le goût des choses de Dieu, mais des choses de la terre, et tu es pour moi un scandale. Le diable subodorait qu'il avait intérêt à ne pas laisser la passion s'accomplir. Mais il se trouve que, ayant été aveuglé par ce que a fait la sagesse du Messie, il n'a pas compris qu'en faisant mourir l'homme, le seul homme sur lequel il n'avait pas pouvoir, il se condamnait lui-même et il s'arrachait lui-même le droit qu'il avait acquis sur l'humanité. Notre Seigneur a dit cette parole terrible à Saint-Pierre parce que c'était effectivement une inspiration satanique. Notre Seigneur a réparé, il a mérité pour nous, nous l'avons expliqué, mes très chers frères, notre Seigneur a mérité que le diable nous laisse jusqu'à la prochaine fois, c'est-à-dire qu'il nous laisse en paix, jouir de l'état de justice, de l'état de tranquillité, la paix telle que Dieu la donne, jusqu'à ce que Dieu trouve bon de nous faire éprouver à nouveau. Notre Seigneur a réparé, il a mérité pour nous, et ça serait la pire des ingratitudes, mes très chers frères, que de ne pas user de la grâce du Christ. La grâce du Christ, encore une fois, je le répète, quitte à rallonger légèrement ce serment, mais la grâce du Christ n'est pas la bonté générale du Créateur qui sait, qui est tellement bon, qui est tellement gentil, etc. La grâce du Christ, c'est la violence que Dieu se fait à lui-même pour pardonner l'impardonnable, pour sauver celui que sa justice condamne justement à l'enfer éternel. La grâce du Christ, c'est quelque chose d'inespéré, d'inespérable, qui procède d'une pure bonté divine, qui vient de l'amour, non pas du Créateur pour sa créature, mais du Père pour le Fils. Nous l'avons expliqué la dernière fois, si vous vous souvenez. Ce serait donc la pire ingratitude, mes très chers frères, je me prêche à moi en premier, que de ne pas user de la grâce du Christ. C'est pour cela que le carême commence solennellement, il a commencé mercredi décembre, mais il commence solennellement le dimanche, le premier dimanche de carême, nous dit la liturgie. Il commence par cet avertissement et même cette exhortation, mes frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ailleurs, saint Paul dira « Veillons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain ». Voyez-vous, mes très chers frères, ne recevons pas cette grâce qui a coûté un prix si exorbitant, si j'ose dire, le mot est faible, à ce Dieu qui nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. Au temps de l'Antéchrist, c'est-à-dire dans un certain temps, nul ne sait, mais dans un certain temps, probablement plus très lointain, mais encore une fois, personne ne le sait, peut-être dans très longtemps, dans quelques siècles ou dans quelques semaines, je ne sais pas du tout. Au temps de l'Antéchrist, selon les Pères, toute cette ingratitude envers la grâce du Christ, cette grâce au prix exorbitant, sera punie. Dieu se vengera d'une façon terrible. Et vous savez sur qui il se vengera, mes très chers frères ? Il se vengera précisément sur ceux qui s'y attendent le moins. Parce qu'au moment où ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Mes très chers frères, tout ceci, il ne se passe rien pour l'instant parce que la grâce de Dieu est salie à la patience de Dieu. Faisons attention de ne pas lasser la patience de Dieu. Demandons dès aujourd'hui pour nos frères, donc pour nous, chacun priant les uns pour les autres, demandons l'amour de la vérité, parce que si nous ne le recevons pas aujourd'hui, alors nous serons aveuglés par la puissance d'égarement au temps de l'Antéchrist. Demandons l'amour de la vérité, alors qu'il est encore temps, et faisons bon usage de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'aide de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.